Alors il y a 3 ans maintenant, avec un collègue historien, on s'est rendu compte que l'un et l'autre, à notre manière, dans nos champs respectifs, on utilisait et on s'interrogeait sur l'apport de l'expérimentation pour accroître la connaissance historique. Trois ans plus tard, plusieurs expérimentations ont été menées et nous sommes ici à Saint-Romain-en-Galles où justement nous avons construit un four correspondant à un four pompéien de manière à pouvoir mener toute une série d'expérimentations, de mesures pour comprendre le fonctionnement de ce four qui permettait de faire du pain levé à Pompéi. D'un point de vue chronologique, le site de Saint-Romain, qui naît au 1er siècle avant notre ère, correspond au moment où les fours à pain pompéiens étaient en fonctionnement. Et donc en fait, même si pour l'instant aucun four à pain n'a été trouvé à Vienne ou à Saint-Romain, la période de vie du site correspond parfaitement à un moment où ce type de four à pain aurait pu exister.
Donc le musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Galles, c'est une grande entité composée du musée, du site archéologique, du domaine des Allobroges. Et nous, on a vraiment envie de toucher tous les publics. Donc on a la partie vraiment enrichissement des collections, étude des collections à l'intérieur du musée. On a toute la partie médiation. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une équipe qui fait vraiment du travail important en lien avec les scientifiques qui nous entourent, avec les archéologues, pour pouvoir justement donner une caution scientifique au domaine des Allobroges, qui est donc le domaine expérimental.
Pour le four à pain, on a un archéologue d'un côté qui est spécialiste des boulangeries pompéiennes, de l'autre côté compagnon spécialiste de la taille de pierre, et puis il y a les médiateurs qui sont un peu entre les deux, effectivement, et nous on sert un petit peu de courroie de transmission entre ces différents univers pour essayer d'avancer vers un objectif commun qui est présenter aussi ce four à pain au public, mais en même temps permettre des recherches scientifiques autour de cet objet particulier.
En fait, simplement en découpant les briques, en faisant le mortier, en les assemblant, là j'ai ressenti immédiatement le besoin de repasser dans tous les fours pompéiens pour mieux les regarder avec en fait de nouvelles questions issues de cette pratique. Parce que toute une série de choses que j'avais sous-estimées ou considérées comme acquises, en fait, posent véritablement question.
Alors souvent, en fait, il y a des contraintes techniques. L'outillage, le matériau a très très peu évolué, on va dire, sur les 5000 dernières années. Et donc la brique, elle se bâtit de la même manière, la pierre, elle se taille de la même manière, voilà. Et donc quand on est chercheur, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de limite à la pensée, hein, puisque c'est essentiellement intellectualiser les choses. Nous, on a des limites techniques liées aux matériaux. Et je pense que c'est plus ça qu'on a pu apporter, c'est de dire ça, c'est peut-être qu'on imagine cela possible, mais techniquement, ça ne l'est pas, voilà. Et donc on a adapté le projet à des contraintes techniques, forcément.
En échangeant, on a réussi à mélanger ce que nous, on savait et ce qu'eux avaient vécu dans leur fouille. Et du coup, on a réussi à le construire en échangeant, justement. On s'est approché de la réalité. Mais on reste quand même avec une certaine couche de questions, mais qui sont quand même beaucoup plus minces qu'au début de la construction.
L'expérimentation sur la boulangerie, en particulier pour la période romaine, est quelque chose d'extrêmement récent. Ça commence depuis peut-être au maximum une toute petite dizaine d'années. Et donc pour l'instant, les expériences, les expérimentations qui ont été menées sont à la fois très circonscrites et en même temps éclatées à travers divers sites. Ce qui du coup est extrêmement problématique pour réussir à comprendre l'intégralité du processus de fabrication pour restituer la chaîne opératoire de fabrication du pain. Inversement, pour d'autres produits, et par exemple pour la production céramique, où il y a une plus longue pratique de l'expérimentation, on pourra plus facilement comprendre du début à la fin comment on passe d'un bloc d'argile à un vase.
On pétrit soigneusement notre terre. Il y a des méthodes de pétrissage. Hein. C'est comme le boulanger a sa méthode pour pétrir sa pâte à pain, le potier, il a sa méthode pour pétrir son argile. Alors, il existe, comme pour la boulangerie, plusieurs méthodes. Hein. Là, moi, je pratique ce qu'on appelle la méthode du museau de bœuf ou du bélier. Hein. On va rouler la pâte pour éjecter les bulles par le centre. C'est très très mauvais, les bulles d'air. C'est beaucoup plus mauvais que les trous dans le fromage. Et on lance une première fois la roue. Et première opération centrage, c'est-à-dire que ce bâton doit tourner sans défaut d'excentricité. Donc, pour faire un pot, il faut mettre du vide dans la balle. Donc, je creuse ma balle. Et je lève déjà les parois en les guidant. Alors, c'est toute une gestuelle assez complexe qui a préoccupé les potiers antiques aussi bien que les potiers modernes et qui est vraiment difficile à acquérir. Je lisse un premier coup à l'éponge. Voilà, et là on coupe le vase à sa base de manière à laisser un socle pour le vase suivant. On essaye de prendre le plus délicatement possible la pièce réalisée. Voilà.
Pour faire gonfler la pâte à pain, on va utiliser un agent levant. Donc pour l'agent levant qu'on utilisait à l'époque romaine, ça va être du jus de raisin issu directement de la fermentation et du pressurage du raisin au moment des vendanges. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inventé de nulle part, on l'a trouvé dans des textes, cité par Pline l'Ancien, dans un de ses écrits, qui nous parle du pain, de la pâte à pain et des agents levants qu'on utilise pour faire gonfler la pâte. Alors moi je le fais à l'œil, mais c'est vrai qu'on va avoir dans les textes les différentes proportions, notamment chez Caton. Alors on va mettre du sel. On va mettre de l'eau. Là, je me fie à l'élasticité de la pâte. Plus on la travaille, plus on la pétrit. Petit à petit, en fait, le gluten se chaîne à l'intérieur et il va réussir à donner beaucoup plus d'élasticité à la pâte. Donc si j'avais tiré le bâton au tout début, il aurait craqué directement. Alors que là, à force de pétrir, petit à petit, on peut l'étirer de façon plus ample. Mais là, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est d'aujourd'hui. C'est des gestes. On ne sait pas comment était vraiment travaillé le pain à ce moment-là. On peut que le supposer. Et c'est vraiment ça la limite de l'archéologie expérimentale. On est confronté à des gestes ou à des objets, des aliments qui sont complètement différents aujourd'hui de ce que c'était auparavant. Donc on est obligé de s'adapter et on n'arrivera jamais à avoir la parfaite restitution ou reconstitution de quelque chose à part l'expérimentation archéologique, mais on va toujours réussir à tendre vers le plus vrai, le plus vraisemblable en tout cas.
Ça fait désormais 10 ans en fait que j'étudie les boulangeries à Pompéi. Donc à la fois en faisant des dessins, des photographies, des relevés des boulangeries en élévation. On en a aussi fouillé 6 ou 7, et nettoyé beaucoup d'autres. Et à partir de là, toute une série de données complètement nouvelles ont été mises au jour, et en particulier la question du combustible. C'est-à-dire qu'on retrouvait systématiquement dans la salle des meules, donc là où le grain était moulu, des noyaux d'olive, associé à des restes de fractions de bois de plutôt petites dimensions. Et donc, a priori, c'était le combustible utilisé dans les fours qui ensuite était épandu dans la salle des meules pour peut-être se protéger des insectes. Je pensais du coup qu'il suffisait de réunir ces éléments-là, de les mettre dans le four, d'y mettre le feu, et hop, ça prend. Et à la fin, le pain est cuit. À force, et grâce à l'expérimentation, je me suis rendu compte en fait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, que toute une série d'autres facteurs que je maîtrise encore relativement mal intervenaient. Et l'espoir que j'avais à un moment de pouvoir quantifier la quantité de combustible utilisé pour une, deux, trois, quatre cuissons va attendre. Au final, c'est certainement pas le plus important. À un moment, je pense qu'on finira par y arriver, mais il y aura d'abord toute une phase d'apprentissage qui sera nécessaire avant de finalement arriver à pouvoir quantifier ces quantités de combustible.
En général, quand on fait l'expérimentation, c'est basé sur les études archéologiques qu'on fait, sur les céramiques archéologiques. Et quand on fait les analyses au laboratoire ou les études archéologiques, on comprend que les potiers à l'époque, ils maîtrisent parfaitement le mode de cuisson, c'est-à-dire soit la construction du four, soit la température, soit le choix d'argile même. Donc tout ça, ça joue un rôle assez intéressant pour avoir les résultats finaux.
Une fois que le four est complètement blanchi, que donc la coupole est passée à 500 degrés, en gros, c'est le premier palier de température visible à l'œil nu sans mesure. C'est le moment où toutes les suies se transforment en cendres. Après, il suffit juste de chauffer la sole de manière à ce qu'elle arrive à 250-300 degrés en surface pour qu'on puisse faire cuire le pain. Et ce qui fait qu'ensuite, quand le pain cuit, il n'a pas ce goût ignoble de suie. En fait, c'est non seulement le premier cap visible en termes de température, mais c'est aussi un cap absolument nécessaire, parce que sinon, le pain a un goût mais affreux, quoi.
Alors sur le four à pain, on s'est rendu compte là aussi que le four à pain, par exemple, au mois d'avril, on l'avait expérimenté. On l'a allumé le premier jour, on n'arrivait pas du tout à atteindre la température, parce qu'il n'avait pas tourné pendant plusieurs mois. Du coup, on avait beau alimenter, ça ne voulait pas y aller.
Les potiers, avant, avaient un peu leur propre technique et étaient capables, puisqu'ils faisaient des cuissons très régulièrement, de faire leur cuisson sans avoir ces outils. Et comme on n'est pas des spécialistes, on a besoin de la technologie d'aujourd'hui et de sondes particulières pour pouvoir suivre en fait la température à l'intérieur des laboratoires où sont situées les céramiques.
La moindre entrée d'air, ça va rougir à nouveau les peaux, ça va les éclaircir en fait. L'idée c'est d'avoir du noir là, du noir métallescent.
La difficulté en fait de l'expérimentation, c'est qu'il faut certainement être capable à la fois évidemment de vivre sa pratique expérimentale, mais aussi de noter et d'observer ce qui se passe. Et là-dessus, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire qu'il faudrait que, dans le cadre d'une pratique d'expérimentation, que l'expérimentateur réussisse véritablement à se dédoubler. Pose ses questions pendant sa pratique, réfléchisse à sa pratique tout en la faisant, et réussisse aussi en même temps à noter l'intégralité de ses réflexions. Et où prendre le temps de les mettre au propre très régulièrement.
Forcément, le fait de participer devrait de manière concrète à l'élaboration de ce projet, en taillant les pierres, en les façonnant, en faisant le mortier, etc. Évidemment, ça enrichit notre discours vis-à-vis du public quand on parle de cet objet. on a une approche qui est aussi beaucoup plus réaliste, quelque part, et on maîtrise encore plus le sens des mots que l'on porte et que l'on destine à nos publics.
Belle densité quand même, hein. Une des premières conclusions, même si à mon sens c'est pas la plus importante, c'est que certaines des questions qui m'ont amené à réfléchir justement sur les fours pompiers, que je me posais sur les fours pompiers, ont été résolues. Au final, très très peu, et quelque part c'était pas le plus important. Le plus important, c'est que toutes les données qu'on a accumulées en faisant des cuissons dans le four à pain serviront et nourriront le débat scientifique. Et dans ma réflexion, en fait, le simple fait de pratiquer, de tenter de faire du pain moi-même, de tenter de faire cuire du pain, m'a considérablement transformé ma propre vision que j'avais obtenue derrière mon bureau, en lisant des livres, en bibliothèque, etc., etc. Là, le simple fait de pratiquer m'a permis de comprendre, d'une part, que certaines choses que je pensais évidentes ne l'étaient absolument pas, étaient potentiellement beaucoup plus complexes. Et voir aussi certaines choses que je croyais résolues. En fait, il y a une série presque infinie de questions qui se sont ouvertes au cours de cette pratique.